Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Toujours en mode confinement, couvre-feu oblige. On est toujours à la maison et on s'excuse donc de la qualité sonore de notre émission. C'est pas toujours évident. Ça nous avait été reproché la semaine précédente. En plus, c'était suite à cette humiliation à Geoffroy Guichard, 5-0. Voilà, là, c'est la 22e journée de championnat. Et pour analyser ce match avec une victoire stéphanoise, eh ben, chacun chez soi. Salut à toi, Eric.
Salut à toutes et à tous, ça va un peu mieux.
Ben, tant mieux. Et puis, Olivier, salut à toi.
Salut Marco, salut Eric et salut tout le monde.
Voilà, on va revenir donc longuement sur ce match de la 22e journée de championnat avec cette victoire, cette courte victoire en terre azuréenne, 1-0. On passera des morceaux musicaux, évidemment, Rock'n'Foot oblige. On clôturera l'émission avec des coups de cœur et des coups de tête. Et puis, il y aura des questions, le match historique, l'agenda. Enfin, ça va être bien complet tout au long de cette émission pendant 55 minutes. Bonne émission à vous.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
Donc, le match, comme je le disais, c'était le match donc, de la 22e journée de championnat avec ce déplacement périlleux en terre azuréenne avec une équipe niçoise qui l'avait emporté la journée précédente à Lens, alors que ces Niçois. Ils sont un petit peu comme les Stéphanois, ils ont du mal en ce moment, hein. Très peu de victoires, sauf la dernière. Alors, dans la composition de Puel, Moulin était aligné avec Trauco, So, Mukoudi, Debuchy en défense. Au milieu, Camara, Neyou, Aouchiche. Et devant, Bouanga, Nordin et Amouma. Les Stéphanois sont plus entreprenants au cours de cette première période avec en mode pressing, ils arrivent à se créer à l'image de Bouanga quelques occasions. Donc Bouanga auteur de deux têtes au second poteau, 32e et 42e minute de jeu. Amouma et Camara qui transforment l'essai avec des tirs largement au-dessus des cages niçoises. Voilà, toujours pas de tir cadré, même constat côté niçois avec un enroulé de Guiri juste à côté à la 36e minute de jeu et un tir croisé de Ren Adélaïde. Donc à la mi-temps, un pauvre 0-0. Et la seconde de mi-temps, ben, l'effectif stéphanois ne change pas. Les Stéphanois sont plus dominateurs donc en seconde période et les Verts font le siège du camp niçois, mais toujours autant de maladresse devant le but, que ce soit Debuchy sur corner ou la tête de Bouanga, toujours la tête de Bouanga sur un caviar d'Aouchiche à la 70e minute, il me semble. Les Verts poussent enfin et en fin de rencontre avec des nouveaux changements et c'est Abi qui reprend une passe-tir de Trauco. Et Abi ouvre le score à la 88e minute de jeu, scénario idéal. Les Stéphanois, plus dangereux sur ce match, remportent les 3 points. Moulin a bloqué le seul tir cadré niçois en seconde période. C'était Dolberg sur coup franc. Mais les Verts méritent cette victoire et remportent les 3 points.
Exact. Et à cette occasion, la composition de Puel, tu l'as, Marco? S'il te plaît, pour qu'on puisse en parler.
Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Moulin.
D'accord. Ok. Non, mais j'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai pas été attentif. Alors, sur la question ouverte, on reviendra sur les cas particuliers après. Justement, je vais peut-être demander à Eric, et ça te permettra de souffler un petit peu. Eric, est-ce que on peut dire que c'est une belle réaction C'est la réaction qu'il fallait côté stéphanois après la débâcle lors du derby.
C'est sûr, c'est une lueur dans la grisaille, on va dire. C'est vrai qu'après l'humiliation dans le derby, l'équipe se devait de réagir. Alors l'adversité n'était pas la même. Hein. On a joué contre une équipe qui a des résultats catastrophiques chez elle. Une équipe qui est restée sur 5 défaites et 2 nuls lors des 7 derniers matchs à l'Allianz Riviera. Alors les Verts ont évolué dans un système en 4-4-2 qui leur convient mieux. Ils ont été bien en place, je trouvais qu'ils étaient compacts. Ils ont empêché les Aiglons de développer leur jeu. Après, c'est Nice qui au départ a eu la possession de balle, ça s'est équilibré peu à peu. Les Verts ont eu 90% de passes réussies, c'est une statistique assez intéressante, c'est un record depuis pas mal d'années. Et après, on a assisté à une nouvelle fois à un match très pauvre et quasiment aucun tir cadré de part et d'autre. Dans nos temps forts, on a eu l'opportunité de marquer, mais comme souvent, on a pêché dans le dernier geste. Et puis le coaching a été gagnant avec l'entrée d'Abi qui marque un but qui vaut cher parce que derrière, les positions se resserrent.
Exact, on en parlera tout à l'heure, c'était important. Marco, tu partages cette analyse?
Oui, mais on a vu des Verts beaucoup plus déterminés hein, dès l'entame de match avec ce pressing haut, hein, cher Apuel, mais je ne pensais pas que ça allait tenir sur la durée. Et ça finit par payer, hein, il a fallu être patient. On a bien vu qu'on avait des difficultés offensives à concrétiser, hein, et voilà. Mais sur ces deux équipes malades, hein, parce que Nice, autant que Saint-Étienne, ils sont convalescents, hein, ils vont pas bien. On voit qu'ils ont eu du mal, mais c'est vrai que les Stéphanois ont privé, on va dire, pas de ballon, mais d'occasion, on va dire, les Niçois, parce que les Niçois, ils se sont créés des occasions suite à ce pressing par des contre-attaques. C'est les seules intrusions niçoises, elles viennent en fin de compte des errances du pressing qui, des fois, ben, voilà, ça peut poser souci quand on est trop haut et il faut revenir vite. Et les Niçois en ont profité sur deux ou trois occasions. Et comme nous, ils ont été maladroits. Et résultat, ça s'est joué à très peu. Et dans les derniers instants, et tant mieux pour nous, ça nous sourit. Et voilà, au moins, on engrange trois points.
Ouais, à des moments, c'est passé fin du sein. Hein. Sur une contre-attaque, ils ont raté le coche de peu. Alors que Moulin était battu, tu as raison de le souligner. Quand on joue haut comme ça, on s'expose à des contres. Et ça a failli. C'est exactement ce qui a failli se passer au cours du match. Alors, on arrive à un moment de l'émission où, en général, on revient sur les coups tactiques de Puel. Hein. Il nous a habitués à chaque fois d'à mettre des joueurs. Nouveau, des tactiques nouvelles. Alors là, je suis un peu embêté parce que vous allez me dire, hein, mais il me semble qu'il est revenu à du grand classique, Claude Puel, à
Oui.
quelque chose de plus académique, Marco.
Ouais, ça change du 11 de dimanche dernier face à Lyon. Oui, c'était plus cohérent, il me semble. Après, voilà, la semaine dernière, ils ne les avaient pas tous en possession de tous leurs moyens, les remplaçants, je ne sais pas. Mais en tout cas, aligner Bouanga de l'entame de match, ça me paraît plus logique de mettre Nordin à Mouma à côté. Ouais, ça ressemble quand même déjà plus à quelque chose. Et surtout, un meneur de jeu comme Aouchiche qui a fait plutôt un bon match, ça change la donne, quoi. Ça change la donne. Donc, je trouve que c'était plus logique et j'aurais voulu voir ce genre d'équipe la semaine précédente. Ce qui a changé aussi, c'est défensivement, parce qu'il y a nos porte-bonheur de Buchy, hein, notre capitaine, qui quand même Calagnac, même si physiquement, des fois, ben, pour ses retours de pressing, il était un petit peu à la rue, mais ça fait du bien, et surtout Mukudi. Hein. Mukudi, là, on l'avait pointé la semaine dernière, comme quoi il était absent et que les Lyonnais avaient marqué sur des coups de tête. Et ben, un joueur de coup de tête comme Mukudi, il est indispensable, quoi. Indispensable. Donc, voilà.
Ok. Alors, par rapport à. Je te donne la parole, Eric.
Ouais.
Par rapport à. S'il y en a un qui a pris un coup de pelle, c'est Kolodziejczak, hein, parce qu'il était plutôt titulaire à chaque fois qu'il était disponible. Et sur ce match, il ne l'était pas. C'est pour ça que je vais mettre le jingle et on t'écoutera sur ce choix, Eric.
Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Tu veux un coup de pelle?
Alors, est-ce que le coup de pelle est mérité à notre ami Kolodziejczak.
Ouais, c'est pas illogique quand on voit la prestation de Colo la semaine dernière dans le derby. Alors, c'est pas le seul qui est passé au travers, hein, c'est sûr, quand on prend une telle raclée, tout le monde est à mettre dans le même panier. Mais lui, en charnière centrale, il était totalement dépassé par les événements, donc c'est pas la première fois. Ouais, c'est la mini-surprise dans la compo de Puel. Pour moi, c'est assez logique. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a remis un système en 4-4-2 dans lequel l'équipe est plus à l'aise. Moi, la lecture du 11 de départ, j'étais plutôt satisfait. Hein. En défense, on retrouvait donc le retour, on enregistrait le retour de joueurs importants, comme a dit Marco, qui sont Debuchy et Mukudi. Après, il y avait le choix de Sow qui a été préféré donc à Kolo et Camara qui s'était montré plutôt à son avantage en charnière centrale qui est monté d'un cran aux côtés de Neuhou qui lui pour le coup cette fois a joué à son vrai poste contrairement à la semaine dernière où il évoluait en faux numéro 10. Et puis Aouchiche, enfin titularisé, mais sur un côté, et non pas comme meneur de jeu. Et puis après, offensivement, Nordin, Mouma, Bonga, c'était intéressant sur le papier, même si ils n'ont pas vraiment été à la hauteur de mes attentes, on va dire.
Ouais, exact. Parce que, alors, si c'est plus cohérent sur le papier, dans le jeu, on a vu quand même une équipe donc, qui était plus volontaire, mieux placée dans la récupération du ballon. Mais par contre, au niveau des centres et au niveau de la surface adverse, franchement, je voulais vous entendre là-dessus, Marco. Dans le dernier geste, on va dire dans la surface adverse, on a vu énormément de déchets.
Ben ouais, ils ne trouvent pas le cadre, ils sont maladroits, ce n'est pas nouveau. Hein. On est une équipe de Ligue 1 le plus mauvais hein, dans les derniers instants, lorsque tu montes la balle jusqu'au bout. Et en plus, on ne se crée pas énormément d'occasions. Hein. Donc, si en plus on se crée des occasions et qu'on ne les met pas au fond, ça pose souci, mais c'est le cas depuis le début de saison. Hein. Mais il y a une maladresse qui est presque inexplicable pour moi. Même Amouma, le premier tir qu'il a fait, là, il l'envoie je ne sais pas où, là. C'est dommage parce que d'un plat du pied, je pense qu'il aurait pu tromper Benitez dès le premier quart d'heure. Donc, déjà, se créer des situations, il y a un certain manque de création, je trouve. Hein. Et en plus, dans les derniers gestes, comme tu le dis, bah, c'est pas adroit, quoi.
Eric, si on regarde, hein, la possession, elle est à plus de 55% stéphanoise. Le nombre de centres est impressionnant. 10 corners à 4 pour les Stéphanois et pourtant un seul tir cadré sur le but, en quelque sorte. Et comment tu analyses ça?
C'est un mal récurrent, hein, c'est sûr. Hein. Émission après émission, on dit la même chose. Donc le problème, c'est cette inefficacité offensive. Alors là, on avait trois joueurs avec un profil intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça n'a pas fonctionné parce que dans le dernier geste, on n'est pas présent. Quoi. Et même Amouma, sur ce match-là, effectivement, il a fait des mauvais choix. Bonga n'est toujours pas en réussite. Hein. Il y a plusieurs têtes, des tirs dévissés. Nordin, qu'on a peu vu. Alors, il y a eu des centres surtout côté droit. Je trouvais que ça, le jeu penchait pas mal à droite du côté de Debuchy, surtout en première mi-temps. Traoko, il n'a pas vraiment apporté offensivement, j'ai trouvé. Mais après, oui, c'est tout un problème à mettre en place au niveau de l'organisation, mais on ne peut que constater ce manque offensif.
Ouais, il y a un circuit, on va dire que les leaders ils sont Debuchy à Mouma, ça s'est ressenti sur le terrain.
Oui.
Et justement, on parlera un peu des cas individuels après un premier morceau choisi par Marco.
Ouais, ce sera le groupe niçois Nux Vomica avec un titre ben, qui correspond à notre émission puisque c'est supporter niçois. Ça s'appelle « Je monte au stade ».
Je monte au stade, je monte au stade, voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade, voir Nice gagner. Le vendredi et aussi le samedi, c'est en fait après-midi à la fin de la journée. Fin de semaine, j'ai fini de travailler. Je monterai pour me régaler. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade, voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade, voir Nice jouer. Sur les mafieux, les magouilles parisiennes, salon salade, niçoise, ici le terrain à gagner. Je suis heureux, cette équipe c'est la mienne. Ici Nice, Nice fidèle va gagner. Yeah. Je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Le vendredi et aussi le samedi, c'est en fin d'après-midi à la fin de la journée. Fin de semaine, j'ai fini de travailler. Je monterai pour me régaler. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Sur les mafieux, les magouilles parisiennes, salon, salade, niçoise, ici le terrain à gagner. Je suis heureux, cette équipe c'est la mienne. Ici Nice, Nice fidèle va gagner. Car je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner.
Nux Vomica, qui n'a pas pu monter au stade et n'a pas vu Nice gagner. Et en plus, ça, c'était à l'époque du stade du Rail. Et là, c'était le match avait lieu à l'Alliance Riviera. Voilà, vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. On revient sur cette victoire stéphanoise en terre azuréenne.
En effet, les Niçois, je crois qu'ils sont pires que les Stéphanois encore au niveau de leur rendement à domicile. Alors, on revient sur cette victoire 1-0 dans les derniers moments du match de la part des Stéphanois sur le terrain de Nice. Et je voulais voir avec vous si le fait que les joueurs et le staff se soient rappelés au bon souvenir de Geoffroy Guichard cette semaine, c'est-à-dire ils ont rencontré les deux groupes ultra, les Green Angels vendredi et les Magic Fans samedi. Est-ce que il y a eu un effet, à votre avis, sur le rendement, sur sur l'implication des joueurs sur cette rencontre? Est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous en pensez, Eric, toi qui suis ça de près?
Je ne suis pas convaincu que ce soit directement lié. Après, la réaction des ultras est logique. Après une telle humiliation dans le derby, forcément qu'ils se devaient de réagir. Donc, on sait déjà que les Green Angels, auxquels sont associés les indépendantistes, réclament depuis quelque temps à corps et à cri le départ des dirigeants. Vendredi, ils sont rendus à l'Etra pour rencontrer les joueurs, les mettre face à leurs responsabilités. Il y a un ras-le-bol général qui se comprend, une grande inquiétude aussi par rapport à la situation tant sportive que financière du club. Depuis presque un an, les supporters ne peuvent plus assouvir leur passion. C'est notre cas. Donc, on peut comprendre leur exaspération. Et le lendemain, les Magic Fans ont fait la même chose. Ils ont fait intrusion sur le terrain Méjaquet. Alors, les Ultras ont toujours représenté un contre-pouvoir. À Saint-Etienne, on leur ouvre beaucoup de portes. Maintenant, de là à dire que le résultat à Nice dépend de la venue des Ultras, je ne pense pas. Mais voilà, c'est important de marquer le coup malgré tout, que les supporters montrent qu'ils sont là. Ils ne peuvent pas aller au stade, donc ils sont rendus à l'Etra. Bon, ça s'est passé quand même relativement bien par rapport à ce qui a pu se passer dans d'autres clubs. Mais après, voilà, c'est une grande famille, la SS, on le sait. Et là, elle est plus que divisée. Donc, c'est temps que tout le monde tire un petit peu dans le même sens, je trouve.
De toute façon, il fallait qu'ils montrent les dents, les Stéphanois. Il fallait qu'ils réagissent. Moi, je les ai trouvés, ce que j'ai dit tout à l'heure, plus déterminants. On l'a vu dès l'entame de match. Regardez, quand il y a le coup d'envoi, ils sont tous devant.
Ah, mais c'est contre Lyon aussi, Marco. Avant qu'on prenne le bouillon, vraiment, sur l'engagement, on a la première occasion contre Lyon, c'est souvent qu'on fait une bonne entame de match avant de sombrer. Mais...
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux.
Beaucoup plus impliqué. Pardon ?
Non, là, ça a duré.
Oui, voilà. Mais il y avait la volonté, quoi. Il y avait la niaque et on l'a tout de suite vu. Et pendant le premier quart d'heure, on a vu qu'il voulait vraiment bien faire. Par contre, entre bien faire et les moyens techniques et surtout dans les transmissions, c'est plus que limité. Et puis, des fois, ça manque de vitesse. Je dis des fois,
Alors, j'aimerais qu'on reste sur les supporters parce que je voulais vous faire écouter
Ah bon?
ce qu'a dit Claude Puel là-dessus et vous ferai réagir. Est-ce que la venue des supporters a joué un rôle et quelle importance est-ce que ça a pour les joueurs et pour Claude Puel?
Nos supporters ont manifesté leur déception et dans la situation, c'était légitime, notamment par rapport à un derby où, encore une fois, bon, je veux remettre les choses en perspective dans la mesure où les deux derniers matchs, on les a joués avec un groupe qui était décimé. On a répondu face à cette situation, dans la qualité, le caractère contre Strasbourg, et on n'a pas su le faire contre Lyon parce que la marche était trop haute et que les joueurs n'étaient pas disponibles physiquement, mentalement, avec tout ce qu'on avait vécu. Et donc on a subi ce match, on a subi un score très lourd qui a fait mal à toutes les têtes. Donc c'est très costaud dans cette situation de répondre présent et puis de récupérer petit à petit tout le groupe et d'être consistant et de mettre de la qualité. Et cette victoire, elle est pour tout le club, mais également pour nos supporters. Parce que je tiens à signaler et à souligner que nos supporters, avant-hier et hier, ont été constructifs avec nous. On a eu des échanges constructifs. Et voilà, c'est une récompense pour eux aussi, parce qu'ils croient en nous.
Voilà, des échanges constructifs. Est-ce que c'est bien, la communication est bien gérée de la part de Claude Puel à ce niveau-là? Votre avis, Eric?
Bah, c'est sûr que c'est parfaitement ficelé, hein, quoi. C'est politiquement correct, je dirais. Donc, il a employé le mot combatif, il a dit que c'était intéressant comme échange. Bon, je n'irai pas jusque-là, hein.
Légitime. Légitime. Jusqu'à quel point c'est légitime de rentrer par effraction dans un centre d'entraînement?
Bon, on leur a ouvert la porte. Après, il y a eu un problème. Il y a un grillage qui a cédé sous la pression des supporters. Je parle de l'intervention des Magic fans, pas des Green Angels. Mais bon, après, oui, c'était vraiment le post-derby, quoi. Ce match, on sait qu'il est vraiment à part. Et il y a 3 ans, ça a créé une onde de choc quand on a pris 5-0 à domicile. D'ailleurs, Oscar Garcia était parti dans la foulée. Là, depuis quelques temps, on a l'impression qu'on accumule les défaites, même les humiliations. Alors, une fois, c'est Paris, après, c'est Lyon. Et puis, il n'y a pas vraiment de réaction. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même exprimer un ras-le-bol général. Bon, il y a des façons de le faire. Mais bon, après, une fois, je ne pense pas que ce soit encore une fois lié à l'intervention des ultras, qui ait une incidence réelle sur la motivation des joueurs. Ça serait quand même grave, quoi.
Après, le contexte actuel avec ce couvre-feu, ce n'est pas évident pour que les supporters puissent s'exprimer. Là, ils ont pu se rassembler, mais c'est tellement, tellement rare. Donc, ouais, moi, j'avais prédit que ça allait bouger du côté Saint-Étienne et ça a tardé. Moi, je pensais que début de semaine, ils allaient montrer leur colère. Et c'est plutôt fin de la semaine, vendredi et samedi, qui sont montrés disponibles. Mais après, voilà, c'est pas évident. Vu le contexte actuel, il y a très peu de liens avec le public stéphanois, avec le peuple vert. Et voilà, et on sait bien que Saint-Étienne en pâtit.
Ok. Après, oui. Merci. Est-ce que on n'arrive pas à un tournant là de la part de Puel? Je change un petit peu de sujet. Au niveau des jeunes, est-ce que face à Lyon, il ne s'est pas rendu compte des limites de sa stratégie de faire jouer de très très jeunes joueurs? On l'a dit que c'était une équipe de Gambardella qu'il avait alignée contre Lyon. Est-ce que justement ça n'a pas aidé à lui faire prendre conscience? Quand on regarde l'équipe qu'il a alignée aujourd'hui, on n'a pas assisté à un tournant, là, y compris pour Claude Puel, qui, on sait, est quand même assez têtu. Il va mourir avec ses idées. Mais quand même, est-ce que là, il n'a pas compris un petit peu la limite de ces jeunes joueurs? Marco?
Bah, j'espère. J'espère, parce que c'est le bricoleur, Puel, hein. Il bricole depuis le début de saison. C'est jamais le même 11 de départ. Donc, c'est ça qui, je trouve, qui pose souci. Effectivement, le 11 aligné dimanche après-midi à Nice, moi, me paraissait cohérent. Et j'aurais bien voulu voir ce 11 face à Lyon. Je pense qu'on aurait moins bu la tasse, même si Lyon était largement supérieur à Saint-Étienne. Mais faut qu'il reste quand même dans un schéma similaire, il me semble, pour la suite et rapidement, puisque le prochain match, c'est dans 3 jours. Faut pas trop changer et puis mettre aussi un meneur de jeu comme Aouchiche dès l'entame de match, puisque Aouchiche avait très peu joué. Je crois qu'il avait été titulaire à Reims, je pense,
C'est ça.
une mi-temps, hein, c'est ça?
Oui, il est remplacé par Amouma.
Ouais, remplacé par Amouma, c'est une mi-temps sur tout le mois de janvier pour un jeune joueur que tu es allé chercher et qui peut faire la différence. Je trouve que c'est limite. Donc, les jeunes de la formation, ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas le même rôle que Aouchiche ou Boudbouze. Boudbouze, on a vu ses limites, hein, il apporte rien. Aouchiche, il peut apporter. C'est pas sur 90 minutes, mais il peut apporter offensivement. Donc, ça me paraît plutôt logique de rester sur ce 11 de départ pour les prochaines rencontres.
On va pas parler de bout de bouse parce que on pourrait se demander si c'est une blessure diplomatique un peu. Hein, ça, il a quand même été un des joueurs qui a été un peu rudoyé par les supporters
Il a
il y a
encore
2 jours.
été pris à partie. C'est pas la première fois. Ça s'est déjà produit à l'aéroport en Ukraine. C'est un petit peu la
D'accord.
tête de Turc.
Mais bon, ouais, on va pas insister. On verra comment il va rebondir notre ami. Je voulais qu'on fasse une petite, un petit mot sur Charlaby qui a quand même marqué un but important. Et on va écouter ce que nous en dit Claudius.
Oui, se poser des questions, s'il devait être prêté ou quoi. Donc la réponse, c'est celle-là. Voilà. Et c'est comme ça que je veux le voir répondre. Il passe des paliers à son rythme, voilà, comme beaucoup de jeunes d'effectifs. Et il faut être patient avec tous ces gamins. Alors des fois, ça se passe bien, des fois moins bien, mais ça fait partie de l'apprentissage et on ne peut pas faire autrement que de leur donner des temps de jeu. Et pour les nourrir et pour les élever, encore une fois. C'est un groupe, je l'ai dit déjà, qui est uni, même si on essaie beaucoup de les séparer, d'y voir des conflits de génération, par exemple. Non, ils sont ensemble et chacun joue son rôle de la meilleure des manières.
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette interview et notamment la question de l'avant-centre. On sait que les Stéphanois avaient comme objectif de recruter un avant-centre, ce qui va peut-être se faire, et que Charlaby allait peut-être être prêté, comme d'ailleurs Jean-Philippe Crasso l'a été. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faut absolument recruter dans ce poste d'avant-centre dès cette année, ou être patient et pour trouver la perle rare plutôt que se précipiter sur un cas, enfin ce qu'on a déjà vu apparaître. Je me rappelle de comment il s'appelle, d'un Portugais qui était arrivé comme ça au mois de janvier, le dernier jour du mercato. Ça n'avait pas été une grande réussite.
Stiga, Boustiga?
Pas Postiga, non, un joueur qui un petit attaquant de poche.
Jorginho?
Voilà, Jorginho, très,
Ah,
très bien.
il est
Ouais.
portugais. Oui,
Qui a
je me rappelle
perdu.
très bien. On attendait Delors, rappelez-vous. On a vu arriver Jorginho.
Donc
Tu sais
voilà.
qu'il a joué à Manchester quand même, Jorginho.
Oui, ça, c'était le seul truc qui nous rassurait. Mais bon. À part ça, il nous a pas épatés. Qu'est-ce que vous en pensez de ce poste
Ah oui,
d'avant-centre?
il nous faut un neuf. Il nous faut un neuf.
Dès cette année, même en catastrophe.
Il nous faut un neuf. Donc, si tu mets Abi, ben, tu mets Abi. À propos, je tiens à souligner les bons choix, les bons remplacements de Puel. C'est rare. Donc, je tenais à le souligner. C'est rare que quand il fait des changements, ça paye. Et
Tu dis ça? Tu dis ça pour Monet Paquet?
mais Money Paquet, il est à l'origine du but. Hein. Ça vient, au départ, ça vient de la droite. Hein. Donc c'est pour ça que je parle pour Money Paquet et pour Abi. Hein. Pas pour Gourna, mais puisqu'il y a eu donc trois changements. Hein,
Gourna qui a pris un jaune, il sera suspendu.
Mais ouais, Monet Paquet, le but, ça vient de son côté droit. Hein. Ça lobe la défense et ça va sur Trauco, qui après s'entretire et c'est Abi bien placé et démarqué qui met la balle au fond. Donc oui, on a besoin d'un avant-centre, ça, mais ça, c'est évident, quoi. C'est évident. Et surtout quand tu vois la justesse du jeu de tête de Bouanga, parce que j'imagine Berić sur les trois têtes. Alors, je parle de Berić parce que c'est le dernier numéro 9 qu'on a eu à Saint-Étienne. À mon avis, sur les trois coups de tête avec Berić, il y aurait eu au moins eu un but parce qu'il était plus adroit de la tête. Donc oui, on a besoin d'un 9. Ça me paraît évident. Tu ne peux pas jouer sans 9. Ouais. Voilà pour eux.
Voilà quand, pour il moi, était pas hors jeu. Quand il n'était pas hors jeu, c'est vrai qu'il pouvait de temps en temps mettre un bon coup de tête. Mais le foot, ça se joue avec les pieds, Marco.
Bah, avec la tête aussi, pourquoi tu dis ça?
Non, mais vous n'allez pas me parler de Berić pendant 10 ans.
Mais c'est toi, tu poses la question d'avant-centre. Ouais, quel est le dernier avant-centre qu'on a eu?
Pour moi, Berić, c'est pas une référence au poste d'avant-centre.
Bah, tu veux que je te parle de Wolfhard?
Parce que avec un petit entraînement, tu vas plus vite, tu cours plus vite que Berić, je crois bien.
Mais je ne te parle pas de course, on parle du poste numéro 9. Tu
nous on poses parle de renard des surfaces et de joueurs en déviation. Oui,
tu poses la question de ce titre de numéro 9, de ce joueur numéro 9. Oui, on a besoin d'un numéro 9 dans une équipe de foot pour marquer des buts.
Oui, voilà. Et qui court, et qui part en jeu, et qui participe au jeu aussi. On veut peut-être parler de la recrue de ce mercato de janvier, puisque les Verts ont enregistré le prêt d'un joueur sénégalais qui vient de Grèce, de l'Olympiakos, Sissé, un joueur assez athlétique. Voilà, on donne simplement l'information. Il sera aligné certainement, il pourra être aligné cette semaine contre Nantes et contre Metz, mais ça, on va vous en parler juste après un prochain titre musical choisi par Marco.
Ouais, un autre artiste niçois que j'aime bien, c'est le rappeur Zippo. Et là, le titre, ça sera Google.
Réjouissons-nous, voilà le temps du Google. Miracle de l'omniscience humaine via Google. Image, ça y est, on a dépassé le Google Cap. Il n'est plus de chemin qui ne soit sur Google Maps. Tu seras le bienvenu sur la Google Earth si tu t'assures d'être à jour avec les Google Mœurs. Genre pour surfer sur le net avec ton Google Phone, il est conseillé d'utiliser Google Chrome. Télécharge Google Plus, tu seras moins Google seul. Bientôt des Google Puces dans ta Google Gueule. Réalité augmentée dans tes Google Glass. Maintenant t'es au courant de tout ce qui se Google passe. Dans ta Google cuisine, tu fais de la Google food. Ton Google frigo parle à ton Google four. Alors, elle est pas belle la Google vie. T'inquiète, elle te réserve encore quelques Googleries. Il faut que tu restes informé via Google News. Fais gaffe si t'es pas connecté, c'est la Google lose. Partage avec tes proches tes Google coup de cœur. T'as le choix, vas-y pioche dans la Google culture. Arrête de penser, Google pense, rejoins-nous. Envoie ton CV à Google France. T'auras un Google salaire et une Google car. Chez nous c'est Google sympa, on se Google marre. Vous allez voir, on va vous inonder de Google gadgets. Dans 40 ans tu vivras sur une Google planète. T'appuieras sur des boutons dans ta Google baignoire pour oublier que t'as des trous de Google mémoire. C'est fini, this is the Google end. Va mettre ton Google zizi dans tes Google Friends. Bientôt tu réaliseras qu'il est Google trop tard. Mais tu seras déjà devenu un Google connard. Google. 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 Google.
Le libertaire niçois Zippo avec le titre Google. Et là, c'était Google victoire pour les Verts. C'est ça qu'on a tapé et ça a fonctionné.
Bien, elle est pas mal cette chanson.
Ouais, mais il est vraiment très intéressant. Il est très peu connu, Zippo, mais ses textes sont vraiment pertinents. Après, je voulais vous passer un titre, mais il fait 6-7 minutes. C'est un petit peu long quand même pour l'émission Rock'n Foot, non?
Bien, ouais, exact. On verra si on a le temps à la fin. Alors, on passe tout de suite à l'agenda, puisqu'il y a deux matchs cette semaine. On laisse de côté les tops et les flops. Je voulais parler de Camara qui a fait un bon match au milieu de terrain. Bon, on verra si on a le temps. Dans les coups de cœur, par exemple, ou les coups de tête. Allez, on passe à l'agenda, puisque deux matchs nous attendent cette semaine.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Donc, premier match, mercredi, les Stéphanois vont recevoir Nantes. Et comme toutes les semaines, eh bien, on revient en musique avec une chanson. Elle est stéphanoise, puisque c'est les Stéphanois qui reçoivent. Je vous laisse écouter quelques secondes de ce premier titre qui parle, qui a un rapport avec Saint-Étienne.
Secret boy, it's the way to start today.
Singing in the morning, waking with the feeling, everything is alright. Singing in the morning, happiness returning. When the sun is shining.
Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu ce
Johnny
titre. Oui, Johnny Rep. Bien, Eric. Le
En
nom
même
du
temps,
titre.
on n'a pas eu beaucoup de Johnny en même temps.
C'est bien. Non, mais il n'est pas très connu ce titre. Alors, pourquoi je vous parle de Johnny Rep? Parce que je suis revenu à un match historique du 23 février 1980, une époque où Johnny Rep peut évoluer sous le maillot vert. Et ce jour-là, les Verts se sont imposés 4-2 face aux Nantais. Alors, particularité de ce match, de cette saison-là, c'est que les Nantais vont remporter le championnat à la fin de la saison. Les Verts s'étaient imposés à domicile. Alors, je vous ai évidemment fait écouter cette chanson parce que Johnny Rep s'est illustré dans ce match. Il a inscrit un doublé face au FC Nantes de Maxime Bossis, Henri Michel, Loïc Amiss. Alors, côté Saint-Étienne, il y avait aussi du beau monde. Les deux autres buteurs de la soirée s'appelaient Michel Platini et Dominique Rocheteau. Hein. Donc, ça fait un beau triplé là. Et il faut savoir qu'à eux deux, niveau but, ça pèse lourd. À eux trois, ils ont inscrit 218 buts en première division. 83 buts pour Rocheteau, 77 pour Johnny Rep et 58 pour Platini. À l'heure où les Verts se cherchent un buteur, eh bien, ça laisse rêveur. Vous serez d'accord avec moi. Allez, on passe au vrai agenda, celui qui concerne la rencontre de mercredi face au FC Nantes. Et c'est Eric qui vous la présente.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Mercredi à 21h, l'ASS reçoit le FC Nantes. Autre chef-d'œuvre en péril du football français, les deux clubs phares des années 70, dont les ultras sont en conflit ouvert avec la direction, jouent leur survie en Ligue 1. Comme les Stéphanois, les Nantais ont gagné deux matchs lors des 4 derniers mois de compétition. Leur dernière victoire remonte au 8 novembre. C'était sur le terrain du promu Lorientais. Les Canaris ont beau avoir changé d'entraîneur, remplaçant l'apôtre du beau jeu Christian Gourcuff par l'usurpateur Raymond Domenech, rien n'y a fait. Ils restent sur 3 nuls et une défaite. À l'heure où nous enregistrons cette émission, ils reçoivent l'AS Monaco. Au bout de 55 minutes de jeu, ils sont menés 0-1. Alors, c'est une équipe qui, comme nous, marque peu de buts. Elle nous talonne au classement et on sait très bien que c'est en battant nos concurrents directs qu'on pourra se donner de l'air, s'éloigner de la zone rouge. Donc, c'est mercredi, ce sera ce qu'on appelle un match à 6 points.
Exact. Vraiment, là, bon, c'est le match à 6 points de ce championnat. Hein. S'il y a un match à remporter, c'est celui-ci. On les laisserait à vraiment une bonne distance.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
On enchaîne tout de suite puisque dans la foulée, alors ce n'est pas un concurrent direct, hein. D'habitude le club de Metz est justement dans ces places-là, hein, entre la 10e et la 17e place. Mais cette année, les joueurs, on va le voir, entraînés par Frédéric Antonetti, ben, ils font un bon championnat. Mais avant ça, on va là aussi revenir en musique sur un match historique qui a opposé les deux équipes. Je vous laisse écouter. Vous allez, là, cette fois-ci, vous allez vite reconnaître.
Oui, même le football a ses idoles.
Vous avez évidemment reconnu le titre de Monty.
Monty, ouais.
Exact. Et bien. Ouais, tout à fait. Avec une sorte d'inspiration du côté des Beach Boys. Hein. Moi, c'est un des titres que je préfère. Il n'est pas très rock'n'roll, mais c'est vraiment un des titres. S'il y avait à choisir un titre dans le panthéon là, de tous les titres qui parle de la Saint-Étienne, je crois que celui-ci, je le mettrai pas loin de la première place. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Bien parce que dans le match historique que j'ai choisi, eh bien, Dominique Rocheteau tient une bonne place. Le match historique que j'ai choisi, c'est la même saison, 79-80, la même saison que tout à l'heure. On est le 17 août 1979, les Verts accueillent le FC Metz et vont s'imposer 2-1 grâce à un but, je vous le donne en mille, de Dominique Rocheteau. En face, côté FC Metz, il y a pas moins de 5 joueurs qui ont porté le maillot vert. C'est pour ça que j'ai choisi ce match-là. Christian Sinagel, Patrick Battiston, Philippe Mahut, Philippe Redon et Henrik Kasperzak composent le 11 messin. Et ce n'est pas le seul exemple qu'il y a de connexion entre Saint-Étienne et Metz. Alors, d'où ça vient, ces connexions entre les deux clubs? Bien, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les deux villes se ressemblent un peu. Ce sont deux villes implantées dans un bassin industriel purement touché au cours des années 80 par la désindustrialisation. Ce sont donc deux villes où le football est hyper important. C'est le seul moyen, un des seuls moyens de redonner de la fierté à ces gens qui se sentent déclassés à ce moment-là. Et puis, les deux stades se ressemblent. Hein. Ce sont deux stades à l'anglaise. Et si on revient à la saison actuelle, il y a quand même 4 anciens verts actuellement qui font partie de l'effectif messin. Tu vas peut-être en parler, Eric, dans ta présentation. Alors, évidemment, la réincarnation de Redondo, Vincent Pajot, Habib Maïga, Wagner Diaz Goncalves et évidemment l'entraîneur Fred Antonetti, l'ancien joueur du CO Le Puy. Ça ne va pas arrêter les Stéphanois, j'espère, Eric. On t'écoute juste après le jingle.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Dimanche à 15h, nous jouerons à nouveau à domicile. On accueillera, comme tu viens de le dire, le FC Metz de Frédéric Antonetti, qui réalise un très beau championnat. Les Lorrains sont actuellement 6e au classement. Ils restent sur 5 matchs sans défaite. Après avoir réussi l'exploit de gagner à Lyon, ils viennent de marquer 4 buts sur le terrain de Brest. Alors attention à cette formation qui nous avait battu tranquillement à l'aller 2-0 et qui a des attaquants de qualité comme Nian, Boulaya, Iseka et Wagner, qu'on connaît bien à Saint-Étienne, et qui a d'ailleurs marqué ce week-end comme Honora et Dioni, deux autres anciens verts.
Exact. Et Marco, sur le FC Metz, c'est impressionnant, hein, ce qu'ils sont en train de réaliser cette saison.
Ouais. Mais on a une revanche à prendre quand même. On a une revanche. Parce que le match aller, on est passé un peu au travers de cette rencontre. Et ça serait bien qu'on montre un autre visage dimanche prochain.
Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite aux Stéphanois. On va poursuivre avec les coups de cœur et les coups de tête, dans lesquels j'espère vous aurez aussi l'occasion de donner vos tops et vos flops.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Marco, on commence avec toi.
Le premier succès 2021 des Verts, donc voilà, fallait attendre fin janvier. Et avec un Debuchy présent, à chaque fois que Debuchy est présent, ça se passe plutôt bien. Il y a juste une seule fois où ça a fauté. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est la victoire de Palmeiras en Copa Libertadores. C'est des verts et blancs, comme Saint-Étienne. Donc c'est un petit coup de cœur. Et puis aussi, je voulais en parler la semaine dernière, mais j'avais la tête ailleurs. C'est le bon parcours de West Ham United en Premier League, même s'ils ont perdu face à Liverpool ce dimanche. voilà, les Londoniens font quand même une belle saison et j'espère qu'ils iront le plus haut possible.
Eric.
Ouais, coup de cœur évidemment pour la victoire à Nice qui fait le plus grand bien dans les têtes et au classement. Ça fait plaisir d'entendre à nouveau un cri de joie dans les vestiaires. Coup de cœur pour Chalabi qui a marqué un but décisif, important pour sa confiance. À l'heure où on cherche un attaquant, on a dit tout à l'heure qu'une place était libérée suite au prêt de Crasso au Mans, ben, il a sûrement une belle carte à jouer. Et puisque je parle de Mercato, ben, un coup de cœur pour la signature de Pape Cissé. On n'a pas trop parlé tout à l'heure, donc c'est un attaquant, c'est un international sénégalais pardon, qui rappellera des souvenirs à Marco, hein, il va lui rappeler Mustapha Bayalsal. Il est tout aussi impressionnant physiquement. Il mesure près de 2 mètres. Il va devenir la tour de contrôle de notre défense. Il a un jeu aérien très impressionnant. Donc ça fera du bien et défensivement et offensivement, puisqu'il marque aussi pas mal de buts. Et j'espère que son arrivée sous forme de prêt sera aussi bénéfique que celle en 2010 d'un autre Pape, Diakaté, qui avait été le premier renfort de Christophe Galtier.
C'est vrai. De mon côté, je voulais signaler la création d'une autre émission de radio qui parle de l'AS Saint-Étienne, un podcast qui s'appelle FAP, c'est-à-dire le Forez Academy Podcast. C'est à l'initiative d'un certain Roland Grosmerdier. Alors, vous l'avez deviné, hein, c'est un peu dans l'esprit de coup de tête. Donc, c'est un copain. On est tous, on fait ça bénévolement. Donc, il n'y a pas de raison de parler de ce genre d'initiative qui ressemble à la nôtre. Et des animateurs de coup de tête. Et il s'agit donc d'une émission que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet, qui s'appelle Forez Academy Podcast. Voilà pour mes coups de cœur. On passe au coup de tête.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Eric. Non, oui. Marco, pardon. Marco.
Marco. Alors, il va être coupé après.
J'apprécie pas les vociférations, les aboiements de Puel tout au long du match. J'avais déjà remarqué face à Monaco en streaming, là, on écoutait, c'était, il n'y avait pas de commentateur et le micro était posé à côté. Autant, tu vois, pendant 5-10 minutes, je peux comprendre, mais pendant 90 minutes, moi, en tant que joueur, ça me saoulerait vraiment. Et en tant déjà spectateur, ça me saoule. Voilà. Je tenais à le dire parce que ça fait plusieurs fois que ça m'irrite. Voilà, je n'ai pas aimé, bien sûr, l'épisode de la série Mohamed, hein, puisque pendant longtemps, on allait chercher cet Égyptien qui ne viendra pas. Et finalement, ben voilà, il ne vient pas. Et je trouve ça assez aberrant de rester un mois sur un transfert qui n'arrive pas à son terme. Je n'ai pas aimé aussi les violents affrontements. J'ai parlé des Palmeiras, hein, les affrontements entre les supporters de Sao Paulo, entre Palmeiras et Corinthians, hein, ces deux clubs de Sao Paulo. Et suite à ça, ben, y a un des supporters de Corinthians qui a été tué simplement par balle. Voilà, ça dépasse l'entendement, mais comme quoi le foot, ça rend complètement fou. Je tenais à le dire. Et puis pour terminer, ben, sur l'Alti-Ligérie, hein, mardi dernier, l'annonce du 6e tour de la Coupe de France de la part de la FFF a fait l'effet d'une bombe pour le football amateur. Dernier club engagé en Haute-Loire, le Puy Foot et Velay FC devaient se retrouver dimanche, donc aujourd'hui pour un derby alti-ligérien. Et il n'a pas eu lieu ce match, puisque le Velay FC a choisi de déclarer forfait. Alors, explication, le président du Velay FC est en colère entre une annonce trop tardive, le manque de préparation et une logistique intenable. Guillaume Fourcade a préféré le choix de la sagesse. Alors, il dit, avec seulement 10 jours pour se préparer, la surprise a laissé la place à l'incompréhension au Velay FC, comme l'explique son président. Alors, voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas possible de jouer un match dans ces conditions-là. Mardi dernier, nous n'avions toujours pas le droit de s'entraîner avec des contacts. Pas de tout, pas de douche, le couvre-feu à 18h et pas plus de 5 à l'entraînement. C'est ingérable. Dans le milieu amateur, 90% de nos joueurs travaillent. Comment leur intégrité physique ne peut pas être mise en danger? Les gars sont à 20% et certains joueurs n'ont pu s'entraîner que 3 ou 4 fois depuis 3 mois en tenant compte du protocole sanitaire de la FFF qui interdisait jusqu'alors les contacts. Il faudrait faire une trentaine de tests PCR en 48 heures avant le match. À 75 euros le test, c'est la sécurité sociale qui paye, point d'interrogation. Donc, il est en colère et donc ça sera le Puy Foot qui accède au 7e tour de la Coupe de France. Mais comme quoi, le football amateur, et c'est Nicole, hein, l'entraîneur de Ligue 2, en tout cas l'ancien entraîneur du Clermont Foot, qui n'est pas content et qui pointait justement ses largesses et puis de l'intérêt du foot amateur qui est complètement mis à l'écart. Et ça, c'est vraiment triste pour le foot.
Le Puy Foot, Marco, qui le week-end prochain recevra Aurillac Arpajon.
Ouais.
En coupe.
Oui.
Eux continuent. Ok. Alors, peut-être je vais apporter un autre son de cloche, mais je trouve dommage de justement pas profiter, parce que c'est vrai pour les deux équipes, en fait. Alors, c'est vrai que le Puy a un statut un petit peu supérieur et il y a peut-être des joueurs qui ne travaillent pas ou qui font que du foot.
Non, mais Olivier, en fait, le Puy Foot a repris l'entraînement depuis longtemps. Il s'entraîne toute la semaine, alors que les amateurs avaient totalement cessé. Et donc là, on les oblige à reprendre d'un coup juste pour ce match. Donc, il y en a qui s'entraînent même à 6h du matin avant d'aller au travail. Donc, tu vois, ça…
Ouais, bien sûr. C'était surtout les arguments de l'intégrité physique. Si j'ai bien compris, moi, c'était le risque, la peur du virus aussi qui avait été donné par l'entraîneur du Velay FC. Voilà. Et donc, je trouvais ça dommage de ne pas saisir la chance, parce que la perche, on va dire, parce que ça pouvait aussi… bien sûr, qu'ils avaient, de toute façon, ils avaient peu de chance, Velay FC contre le Puy en coupe. Alors là, ils en avaient peut-être encore moins, c'est vrai. Mais bon, je trouve ça dommage de ne pas saisir la perche sur une rencontre. Ils l'auraient fait, je veux dire, pas perdre. De toute façon, ils n'avaient rien à perdre réellement. Sur ce type de rencontre, c'est le Puy qui avait surtout des choses à perdre.
Bah, à perdre de l'argent, comme j'ai souligné ce que disait le président du Velay FC, c'est de l'argent. S'il avait besoin de tester toute son équipe, t'imagines ?
C'est la sécurité sociale qui il aurait pu gagner un peu d'argent avec la recette, au contraire. Mais bon, voilà, je trouve ça… Non, c'est surtout que je râle un peu sur l'ambiance actuelle qui fait que des jeunes personnes ont peur du virus, et faut pas que les jeunes en pleine possession de leurs moyens aient peur du virus, parce que sinon on va à la catastrophe. Si même les jeunes ils ont peur du virus, on est mal. Hein. Voilà. Et alors, de ton côté, Eric, des coups de tête.
Ouais, bah, malgré la victoire, un coup de tête pour la pauvreté du match de cet après-midi. Je rappelle que les rencontres diffusées à 13h sont censées promouvoir la Ligue 1 à l'international. Alors, je pense pas que ce soit une très bonne publicité pour le football français. Un coup de tête pour Pierre Ménès, qui a fait l'amalgame entre la visite des ultras stéphanois à l'Etra et les incidents qui se sont produits à Marseille. Incidents qui ont entraîné le report du match OM-Rennes. L'OM aura donc vu un match reporté pour 4 cas de Covid, un autre suite à des incidents à la commanderie. Nous, pendant ce temps, on nous a obligés à jouer à Strasbourg avec 18 cas de Covid et à disputer le derby fortement amoindri. Bon, je ne reviens pas sur le coup de tête par rapport à la Coupe de France dont on vient de parler. Et un dernier coup de tête, de manquer le retour de Domenech à Geoffroy Guichard, ça aurait valu son pesant de cacahuètes.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi.
Exact. Mais il aime ça, c'est ça le pire, c'est que ce genre de personnalité aime ce genre de situation aussi, donc c'est à double tranchant. Il t'aurait peut-être aussi eu encore… imagine que Nantes gagne et que tu te fasses chambrer par Domenech. Alors là, il n'y a rien de pire.
En tout cas, pour l'instant, il perd 2-0.
Oui. Tant mieux.
C'est pas avec lui qu'ils vont se ressaisir. Hein.
Non, mais moi, je pensais pas non plus. Mais à Geoffroy Guichard, méfiance quand même. En tout cas, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne semaine en espérant engranger des points encore cette semaine et s'éloigner de la zone critique. Merci messieurs pour votre disponibilité et la qualité de vos analyses.
Quand on gagne, ça va mieux.
Exactement.
Quand la SS va, tout va.
Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer la 23e et 24e journée de Ligue 1 UB et AT. Voilà, bonne semaine à vous et allez les Verts.
Et n'oubliez pas que les Verts, c'est les meilleurs, mais c'est aussi les plus beaux.
Bonne semaine à les Verts.
Oui, même le football a ses idoles. Aussitôt, wow, 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 wow.
c'est leur idole, on l'aime bien.
Il y a des fans sur les gradins, comme pour les chanteurs, les idoles. À peine sorties de l'école, elles sont déjà